Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
À peine arrivé ici, ce qui frappe, c'est le silence. Un lieu tellement calme que l'on s'entend respirer. Eux ne s'en rendent peut-être plus compte puisqu'ils ont fait du silence un compagnon de route. Eux, ce sont les moines de l'abbaye Sainte-Marie du Désert, une trappe comme on dit à quelques dizaines de kilomètres de Toulouse. En cette veille de Noël, nous avons voulu savoir comment ils se préparent à cette fête et ce que la naissance du Sauveur signifie pour eux. Père Pierre-André-Marie, bonjour.
Pierre-André.
On va y arriver. Bonjour, vous êtes donc père abbé de cette abbaye et nous sommes aussi avec le père André-Marie. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aussi donc moine dans cette abbaye. Alors respectivement, l'un vous êtes là depuis 29 ans, ça c'est vous, et vous,
oui, moi-même.
Vous êtes là depuis 22 ans. Donc père Pierre-André et père André-Marie. Alors, cette émission un peu particulière, donc je le disais, en cette veille de Noël, on s'est dit, avec les équipes de Radio Présence, que le mieux qu'on pouvait offrir aux auditeurs, c'est d'essayer de les aider à plonger dans le cœur de ce qui est Noël, parce que à la ville, d'où je viens, il y a des marchés partout, il y a de la circulation, tout le monde court dans les magasins, veut essayer de faire ses cadeaux et se prépare aux fêtes de famille. Peut-être qu'est-ce qu'on peut commencer par présenter le lieu. Alors évidemment, les auditeurs ne le voient pas. Comment vous pourriez nous décrire ce lieu que peut-être certains connaissent, mais d'autres ne sont jamais venus, père Pierre-André?
Bon, d'abord, il faut savoir que c'était une abbaye, donc c'est un lieu qui a fait le choix direct de vivre dans le silence, dans le retrait, la solitude. Donc un édifice assez monumental quand même, assez caché parce qu'il est dans un vallon, mais dès qu'on s'approche du vallon, on voit pointer d'abord un clocher, puis trois clochers. C'est un lieu où habitent, maintenant on est 14 frères, à vivre en présence les uns avec les autres, et puis en présence de Dieu aussi, nous espérons. Donc une communauté de vie, une communauté de frères qui essaie de vivre dans la vie communautaire, le travail et surtout la célébration de la liturgie, hein, la célébration de la prière de l'Église. Je dirais, c'est notre mission dans l'Église, hein, c'est de prier pour le salut du monde. On nous reviendra sans doute tout à l'heure sur cette question, plutôt ce thème fondamental du salut. Noël, c'est célébrer la naissance d'un enfant, sans doute, mais surtout célébrer la naissance de celui que nous confessons comme sauveur du monde.
Peut-être physiquement, si vous deviez décrire les lieux, je disais en préparant l'émission avec vous, donc frère André-Marie, que c'est les vallons toulousains de Gascogne, comment on appelle ça, ces vallons?
On a dit ça dans la presse, oui. En fait, l'abbaye a été bien choisie par ses fondateurs au creux de trois vallons. Celui qui vient de Garac, il y a une grande descente et une remontée. Celui qui vient de Til, il y a aussi une grande descente et une remontée. Et celui qui vient de Bellegarde, il y a aussi une grande descente et une remontée. C'est comme s'il y avait, dans un triple massif, avec des ruisseaux, il y a même deux lacs, une espèce de promontoire sur lequel était placée une abbaye, au milieu d'un cirque de silence, c'est clair.
Voilà, et au milieu, en tout cas, d'un très beau paysage. Alors, il faudrait peut-être plus de temps pour le décrire, le mieux, c'est de venir. Est-ce que vous pouvez aussi nous présenter donc cette trappe? Alors, je ne sais pas si c'est l'expression habituelle, en tout cas, vous êtes des moines trappistes ou de la stricte observance. Qu'est-ce que c'est que des moines trappistes?
Alors, bon, il faudrait faire une longue histoire pour comprendre
cela. On a
cela.
Le temps, allez-y. Hein,
mais voilà, donc la trappe, en fait, c'est d'abord le nom d'un monastère de la région parisienne, enfin dans le sud ou sud-ouest de Paris, dans le département de l'Orne, qui avait le nom de trappe. Et il se fait qu'au XVIIe siècle, il y a eu une réforme par le célèbre Rancé, hein, qui a réformé cette abbaye. Et donc le nom de la réforme a pris le titre trappiste, donc un adjectif formé sur le nom du lieu. Et puis, après la Révolution française, toute une série de monastères se sont affiliés, c'est vraiment rappelé de manière rapide, donc une série de monastères se sont affiliés à la réforme dite de la trappe. Et donc tous les monastères affiliés à cette tradition se sont appelés trappistes. Et donc nous appartenons à cette tradition spirituelle, tradition cistercienne, bénédictine, mais avec cette couleur particulière que la trappe lui a donnée, de simplicité de vie, une certaine forme d'austérité aussi, mais toujours dans cette grande tradition de la vie communautaire bénédictine.
Alors, pour ceux qui seraient pas du tout familiers de la vie monastique, peut-être en deux mots, ce que c'est que la vie bénédictine et la tradition cistercienne, enfin, en plus que deux mots, hein, vous pouvez...
C'est la plus ancienne tradition monastique. C'est, en Occident, c'est sans doute une des plus anciennes, probablement pas la plus ancienne, parce qu'il y avait d'autres, hein, quand le monachisme est né, ou grosso modo au 2e, 3e siècle, il y avait déjà des petits berceaux, enfin des petits lieux de monachisme. Mais c'est clair que dans l'histoire de l'Église d'Occident, la tradition bénédictine, donc la règle de Saint Benoît, rédigée par Saint Benoît précisément, donc s'est imposée quasi partout en Europe occidentale. Donc une règle composée de 73 chapitres, très simple. Donc on y voit peu de mystique, ou plutôt la mystique est cachée dans le quotidien de la vie. Donc avec une structure, donc 7 grands chapitres qui donnent l'orientation spirituelle, l'humilité, le silence, l'obéissance, la présence de l'abbé, puis toute une série de chapitres donnés sur la manière d'organiser la vie quotidienne, et puis les derniers chapitres de la règle, grosso modo c'est 67 jusqu'à 72, hein, qui donnent une coloration très fraternelle à la vie monastique telle que Benoît la conçoit.
Et donc les cisterciens,
donc au XIIe siècle,
sont des réformes.
Effectivement. Donc on dit dans l'histoire de l'Église que les ordres se réforment tous les 50 ans. Donc il y a des adaptations qui sont liées aux circonstances du temps, donc aux appels de l'époque aussi. Et donc au XIIe siècle, face à un monachisme bénédictin très largement répandu, la tradition cistercienne, les pères fondateurs de Cîteaux ont souhaité revenir en fait à la source de Saint Benoît. Et donc est née la réforme cistercienne avec trois grandes figures. Saint Robert, Saint Albéric et Saint Étienne, et puis surtout la grande figure théologique ou spirituelle de la réforme cistercienne, qui est Saint Bernard, qui va donner ses assises théologiques et spirituelles à la réforme.
Si vous deviez, pour finir cette introduction, présenter l'abbaye qui est ici, alors on a présenté... physiquement et géographiquement, je ne sais pas, vous avez dit que vous étiez quoi, 14 frères, c'est ça?
Nous sommes 14 actuellement.
Voilà, est-ce que vous voudriez, je ne sais pas, de quelques mots, frère, père André-Marie, présenter cette communauté à ceux qui ne sont pas là physiquement?
Bon, c'est une communauté vieillissante.
Pensez à bien parler devant le micro.
Vieillissante, sur les 14, il y en a un qui est en APAD, un qui est en fauteuil roulant mais qui est présent à tous les offices, et un troisième... Qui est moi, c'est-à-dire les octogénaires.
On dirait pas, hein, je vous rassure.
Bon, je suis rentré ici. Alors, pour continuer le paysage, les autres, il y a cinq septuagénaires, et puis un groupe de plus jeunes, de 3 ou 4.
Vous disiez, vous êtes entré ici.
Moi, je suis rentré en 94, donc à 64 ans, après un parcours missionnaire au Brésil et pastoral dans le diocèse de Lille.
Alors, vous préparez en communauté à célébrer Noël. On imagine que, peut-être, à la différence de beaucoup, vous avez peut-être eu le temps de vous préparer à ce Noël 2016, parce que vous avez donc une liturgie importante, vous priez beaucoup, vous vivez en grande partie dans le silence, alors que parfois, nous, dans le monde, on court après les temps de prière et on a l'impression que l'avant a filé. Je sais pas, peut-être tout simplement, au baptisé que vous êtes, est-ce que vous diriez que vous êtes content de votre avant ou pas? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir suffisamment préparé votre cœur? Est-ce que vous allez nous faire rougir?
Ah ben oui, parce qu'on a pris de l'élan quand même. Hein. Préparer Noël, c'est l'entrée en avant. Il y a toute une espèce de bascule de ton et de musique et de texte qui fait qu'il y a vraiment une rupture. On est sorti de l'année liturgique avec la Toussaint, la contemplation du terme de l'existence, l'éternité, les morts. Et puis tout d'un coup, on recommence. On attend. Et donc pendant ces 4 semaines, il y a eu vraiment quelque chose qui est un autre climat. On change de couleur, on se met au violet. Hein. C'est pas anodin. Et on rentre dans la grande attente, l'espérance de ce qui va arriver. Hein. Un événement va se passer de nouveau et on va rentrer ensuite dans le cycle 2017. Et ça va nous mener ensuite au carême, à Pâques, à la Pentecôte. Et on va recommencer un cycle qui va nous permettre de, à nouveau, en fin novembre 2017 de rentrer dans un avant une préparation de Noël. Donc, ces couches superposées sont très importantes. C'est pas du saucisson coupé en tranches. C'est une grande histoire.
Oui, c'est une forme de dynamique aussi. Récemment, c'est le troisième dimanche de l'Avent, je faisais une homélie, et puis j'ai parlé du temps de l'Avent comme un temps marqué par la joie, parce que toute naissance, on célèbre la naissance d'un enfant, toute attente d'une naissance est porteur de joie. Et donc il y a un dynamisme de joie qui est là, présent, qui sous-tend toute cette période de l'Avent, mais assez curieusement, c'est une joie que je qualifiais de suspensive, c'est-à-dire qu'elle est suspendue à quelque chose. Hein, souvent on dit la joie, c'est la joie de posséder quelque chose, de l'avoir déjà dans les mains. Ici, c'est plutôt le temps de l'Avent, c'est une joie qui est suspendue à l'arrivée de quelque chose. Alors je donnais comme image, les enfants, quand on leur dit qui ont du mal à évaluer la durée, l'anniversaire dans nos 4 ans, son anniversaire, on lui dit dans 3 jours, c'est pas accessible à son intelligence. Par contre, vous lui dites, c'est dans 3 fois dormir. Alors l'enfant va se dire, ah oui, 3 fois dormir, ça va venir vite. Et l'enfant, dans la certitude qu'un anniversaire va être célébré, est déjà dans l'attente joyeuse de cet anniversaire. Eh bien, ce temps de l'Avent, c'est un peu ça, cette attente joyeuse, suspendu à l'accomplissement d'une promesse que Dieu nous a faite de toute éternité. Enfin, cela arrive.
Alors, peut-être pour finir, avant qu'on fasse une première pause musicale, vous dites « enfin, cela arrive ». Je vous le disais en préparant l'émission, il y a un certain nombre de personnes qui nous écoutent, qui sont pas forcés, enfin, qui ont une foi fragile. Après, c'est difficile, probablement. Chacun est mauvais juge de sa foi, et puis, je ne fais pas mieux, hein, ce n'est pas un jugement à l'égard des auditeurs. Toujours est-il que tous les auditeurs qui nous écoutent sont pas des catholiques pratiquants, n'ont pas fait une rencontre avec le Christ, comme disent certains. Est-ce que vous diriez aux uns et aux autres, ce matin, que c'est une histoire vraie, ou, alors on le verra, votre engagement de vie, d'une certaine manière, peut l'attester. Mais pour ceux qui, en cette veille de Noël, douteraient, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ?
C'est une histoire vraie dans la mesure où on la rend vraie. C'est-à-dire, c'est de l'ordre de la vérification, de l'authentification. Donc, une vie chrétienne qui authentifie qu'effectivement, le Christ est vivant. Alors, c'est pas un vivant, je sais pas comment vous dire ça, c'est pas un vivant déconnecté du temps, c'est un vivant incarné dans le temps de l'histoire et dans le temps de nos histoires respectives ou personnelles. Donc, c'est une histoire vraie, mais elle ne cesse de devenir vraie parce que nous la rendons vraie.
Voilà, on va faire une première pause musicale. Je vous rappelle que nous sommes à l'abbaye Sainte-Marie du Désert, donc à quelques dizaines de kilomètres de Toulouse, pour essayer de rentrer dans ce mystère de Noël avec avec le père Pierre-André et le père André-Marie. Ce matin, donc, cette émission Vivante Église un peu particulière en cette veille de ce jour pour nous chrétiens si particulier qu'est Noël, puisque nous sommes donc en direct de l'abbaye Sainte-Marie du Désert. avec le père Pierre André, qui est père abbé de cette abbaye, et le père André Marie, qui est donc moine dans cette abbaye, donc abbaye de la stricte observance, abbaye trappiste, comme on dit, c'est bien ça, hein. Mm-hmm. Cistercien réformé, enfin, si vous voulez exactement comprendre de quoi il s'agit, eh ben, il faudra écouter en podcast ce soir le début de l'émission si vous l'avez raté. Sinon, bienvenue. Nous, dans cette deuxième partie, je voulais avec vous essayer donc de voir comment, ici, dans ce monastère, vous essayez de cultiver une relation vivante avec le Christ. Puisque donc tout le mystère de la vie chrétienne, c'est donc d'essayer d'entretenir une amitié, alors je ne sais pas si c'est avec cet enfant Jésus, en tout cas avec ce Christ ressuscité, vous avez ici, votre vie est ordonnée à cela. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a dans cette vie monastique qui vous aide en fait à cultiver cette amitié avec le Christ, Père Pierre-André?
Alors c'est... je ne sais pas comment répondre à cette question. Donc,
je peux vous aider si vous voulez.
Allez-y.
En préparant l'émission, j'ai cru comprendre qu'en dehors de la liturgie des heures, alors d'abord, il y a toute une liturgie des heures, peut-être que vous pouvez décrire, il y a une place importante faite au silence, et puis vous auriez en plus des temps de lectio divina ou des temps d'oraison personnelle, c'est-à-dire votre journée est rythmée.
Voilà, donc en fait, toute la structure de la vie monastique, tout ce qui est prévu dans son organisation concrète, c'est effectivement de favoriser, bon, je vais utiliser un grand mot, hein, favoriser ou cultiver, hein, cet espace d'intériorité. En fait, quand on parle d'intériorité, il faut voir que c'est un comparatif venant de la préposition in. In en latin, c'est dedans. Et puis intus, c'est à l'intérieur. Et puis intériorité, c'est tout ce qui nous fait rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, jusqu'à parler. Hein, donc ça, c'est un comment on appelle ça en grammaire, l'intériorité. Et puis alors un superlatif, l'intimité. Donc toute notre vie spirituelle est effectivement ordonnée à faire en sorte que nous grandissions en intériorité, c'est-à-dire de prise de conscience que nous sommes habités par une présence qui nous dépasse. Que la vie, nous l'avons reçue, que la vie, elle nous traverse, et que la vie, nous avons à la transmettre aussi. Une vie reçue à travers, justement, la mémoire, mais une mémoire vivante de la présence du Christ dans nos vies.
Qu'est-ce que vous avez comme moyen pour cultiver cette intériorité?
Justement, donc parmi les différents moyens dont nous disposons, donc il y a certainement l'espace physique. Vous avez souligné à l'ouverture de l'émission l'importance du silence. Le silence, c'est un petit peu, j'aime souvent comparer cela à une pierre, plutôt à l'écrin dans lequel une parole va pouvoir résonner. Mettez un bijou sur une émeraude. Une émeraude, c'est de couleur rouge, si je ne me trompe. Si vous mettez une émeraude sur un chemisier rouge, vous ne verrez pas l'émeraude. Par contre, vous le mettez sur un chemisier noir, l'émeraude va tout de suite apparaître. Eh bien, le silence, pour nous, on en reparlera sans doute en troisième partie de l'émission, le silence est un peu cet écrin, cet espace dans lequel la parole de Dieu, donc l'Écriture, la révélation telle qu'elle nous est transmise par les Évangiles, mais aussi par l'Ancien Testament, vient comme résonner et nous habiter. C'est justement ce qu'on appelle la lectio divina, hein, ce temps de lecture consacré quotidiennement à la méditation des textes de l'Évangile.
Que vous prenez donc en cellule seule ou vous prenez
alors,
en communauté?
Avons la tradition cistercienne qui est la nôtre, a beaucoup insisté sur la dimension communautaire, même si on vit d'une certaine manière chacun son chemin, mais nous sommes ensemble à faire ce chemin. Et nous avons ce que nous appelons le scriptorium, donc c'est une grande salle où chacun des frères a un pupitre. Et donc chacun consacre une demi-heure, trois quarts d'heure le matin, le soir aussi, enfin ça varie un petit peu selon la disponibilité des frères, en général le matin. Donc nous nous retrouvons dans une pièce commune pour faire cet exercice spirituel de lecture, de méditation, où on cède.
Donc ensemble, mais chacun en silence.
Voilà, ensemble, mais chacun en silence. Donc chacun lit l'écriture et puis s'aide d'outils dont il veut se servir, hein, donc des commentaires bibliques ou des auteurs spirituels qui permettent de comprendre ou d'entrer dans le sens des textes que nous lisons ou de la révélation biblique.
Les autres moyens sur la liturgie, je ne sais pas, vous priez combien d'heures par jour ?
Je ne sais pas s'il faut calculer en termes d'heures. Donc, Paul recommande...
C'est toujours indicatif, en tout cas, voilà. C'est pas un concours, évidemment.
Saint Paul nous recommande de prier sans cesse. Et donc nous avons sept offices pendant la journée, sept offices durant la journée. Alors j'aime à comparer, bon, quand on est à Toulouse, pour franchir la Garonne, nous avons des ponts, mais vous ne pouvez pas mettre un pont où le pont ne peut pas aller d'une berge à l'autre sans qu'il y ait des piliers. Hein, il faut au moins 2, 3, 4 piliers, ça dépend de la largeur du fleuve. Eh bien, je dirais la liturgie, les temps de prière que nous avons ensemble, à la limite, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'important, c'est de franchir l'espace, de passer d'une berge à l'autre. Et les piliers, donc ces moments que nous avons de célébration commune de prière, sont comme des points d'ancrage qui nous permettent de nous rappeler, d'arrêter le temps pour se recentrer sur l'essentiel. Donc c'est pas une fuite en avant, c'est une avancée qui nous permet justement de ne pas être dans une fuite en avant. Alors dans le monde, effectivement, ce que les gens vivent, c'est la course, la précipitation. Notre vie spirituelle...
D'ailleurs, je suis arrivé en retard, je m'en excuse encore.
Notre vie liturgique, par ces temps de prière qui sont fixés à certaines heures, donc elles ne sont pas choisies au hasard, hein, donc c'est des moments définis dans la journée qui nous permettent de nous rassembler, mais à la fois rassembler la communauté, mais aussi, c'est l'ancien mot qu'on utilisait pour les oraisons, hein, la collecte. Collecte, ça veut dire se colligerer, c'est rassembler. Eh bien, les temps de célébration de prière commune, même s'il n'y en a que 7, hein, sont des moments qui nous permettent de nous recueillir, de nous recentrer sur nous-mêmes, de nous rassembler et d'arriver d'une certaine manière à cette progressive unification de toute la personne et du cœur.
Père André-Marie, sur cette même question, sur les outils, en tout cas les choses qui existent dans votre vie à vous pour essayer de cultiver cette amitié avec le Christ, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez préciser ou ajouter ?
Bon, c'est une longue histoire pour moi, hein, bon, parce qu'effectivement, ça a commencé très tôt, mais le sentiment de l'intériorité dont on parle là, c'est pas un sentiment. On a dans notre office un très bel hymne, qui commence par ces mots, « À la mesure sans mesure de ton immensité, tu nous manques, Seigneur. » Et dans le tréfonds de notre cœur, ta place reste marquée comme un grand vide, une blessure. Alors, la majorité des gens que je rencontre ont à peine accès à cette intériorité. Ils bourrent le temps. On se lève, on va au boulot, manger, dormir, etc., travailler, se déplacer. Et même il y a des jeunes qui passent leur vie devant leur écran de télévision ou avec leurs écouteurs sur la tête et qui n'ont pas accès à ce dans le tréfonds de votre cœur. Au fond, quand je pense quelquefois des gens qui me disent « je suis athée », je me dirais « c'est carrément pas possible ». Affirmer ça, ça voudrait dire « je suis à moi-même ma propre source ». Personne ne peut dire ça consciemment. Je suis au moins héritier d'une histoire et j'avance, quand je mourrai, dans une suite. Et donc finalement, je suis reçu d'un autre. Et cet autre habite au fond de moi. Un peu importe si on l'appelle Dieu, Bouddha, etc., ou même Allah, c'est le. Hein. Les juifs et les musulmans n'osent pas prononcer le mot. Hein. Dans la Bible, il n'y a pas. Le mot est imprononçable. Ils disent le. Alléluia, Allel, Gabriel, Raphaël, c'est le. Et pour les musulmans, c'est le Tout-Puissant, le Très-Haut, etc. C'est-à-dire cette force de vie qui m'anime et qui n'est pas moi. Bon, il a fallu tout un temps pour comprendre que c'est ce Jésus qui apporte la réponse comme fils. Il nous est né un enfant, un fils nous est donné, qui va nous conduire au Père, qui est cette source qui est en nous. Mais les gens d'aujourd'hui ont beaucoup de peine à aller descendre au fond d'eux-mêmes, parce qu'ils imaginent qu'il faut un psy ou une thérapie. Ils oublient que le fond du puits, ce n'est pas un abîme, c'est une source.
Alors justement, on s'est dit donc qu'on essaierait plus particulièrement, plus précisément, peut-être de creuser le thème du silence et de la solitude en dernière partie de l'émission, mais bon, peu importe. Il y a beaucoup de gens qui viennent à votre monastère. On a coutume de dire, enfin j'ai souvent entendu que plus on se retire, en général plus les gens viennent à vous, en tout cas il y a du passage ici. Qu'est-ce que vous dites aux uns et aux autres qui viennent? Peut-être y en a-t-il qui viennent qui n'ont pas la foi aussi, vous allez nous le dire. Et qu'est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs pour essayer soit de rentrer petit à petit dans cette intériorité, dans cette intimité, et d'y découvrir ou d'y redécouvrir justement la présence de Dieu? J'imagine que c'est une question qu'on vous pose souvent ici. Alors évidemment, il faudrait peut-être faire des séries d'émissions pour creuser une question aussi vaste, mais qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs aujourd'hui, Père Pierre-André?
Je pense que la vie intérieure, tout le monde en a une. Sinon, si on n'a pas de vie intérieure, ça veut dire qu'on n'a pas de conscience. Donc la conscience, c'est cette capacité de réflexion, de retour sur soi. Et c'est essentiel dans toute vie.
C'est quoi? C'est quand on se parle à soi-même d'une certaine manière, dans le fond, dans
Alors,
sa tête ou dans
oui,
son cœur?
C'est se parler à soi-même, mais c'est un se parler à soi-même, mais qui est ouvert à plein de choses extérieures. Donc la tradition ignatienne, bon, nous on est tradition spirituelle de bénédictine, cistercienne, mais néanmoins, bon, Saint Ignace peut nous dire quand même des choses.
Saint Ignace, le père des jésuites.
Oui, c'est ça, le fondateur de la Compagnie de Jésus, donc jésuite. Donc Saint Ignace insiste beaucoup sur l'importance des motions intérieures, c'est-à-dire des choses qui viennent de l'extérieur, parce qu'on est fait de cinq sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher. Voilà. Nous sommes ouverts au monde par nos cinq sens. Tout ça vient m'affecter. Et il s'agit d'être attentif justement à tout ce qui est de l'ordre de ces motions intérieures. Qu'est-ce que ça me dit? Et donc dans tout travail ou toute recherche humaine, nécessairement, il y a ce travail de la conscience qui vient, qui accueille le monde extérieur pour pouvoir s'orienter dans la vie. Et donc, une des conditions pour être attentif justement ou cultiver cette vie intérieure, donc frère André-Marie le soulignait tout à l'heure, cette source intérieure qui nous précède, eh bien, c'est la nécessaire présence du silence. Dans l'agitation, dans le bruit, impossible de revenir à soi-même, impossible d'accueillir ce qui vient de l'extérieur pour venir informer ce que je dois, quand j'ai à orienter ma vie, comment l'orienter, sinon en étant attentif au ressenti ce que je perçois du monde extérieur, mais qui vient comme vibrer à l'intérieur de moi. Et donc c'est une qualité de présence à soi-même, en même temps qu'une qualité de présence au monde environnant. Hein, on sent les choses comme quand on entre dans une salle ou dans une pièce, on sent tout de suite l'électricité qui peut y, quand il y a une tension. Il y a besoin de rien pour sentir que le climat de la pièce est tendu. Et inversement, quand on sent un groupe dans une pièce où ça circule, eh bien, on se sent tout de suite bien intégré. Silence, donc, qui permet d'être attentif à tous ces signes extérieurs et qui viennent alors nous aider à voir clair dans sa vie, dans son cœur.
Même question, Pierre-André-Marie, en tout cas. Donc,
André-Marie.
Pardon, excusez-moi, je vais y arriver. Père André-Marie, donc, il y a l'importance d'essayer de trouver du temps, donc, soit en venant en retraite dans un monastère, mais peut-être en l'installant dans sa vie quotidienne. Mais comment on fait, au cœur de ce silence, peut-être pour descendre au fond de son cœur, de ce que vous décrivez, cette descente intérieure que ferait, à vous entendre, peu de gens?
Bon, aux gens qui arrivent ici, j'aurais tendance à leur dire, laissez-vous faire. Laissez-vous faire. Les deux images qui me viennent, c'est la musique et l'art. Bon, on peut visiter un musée avec le guide en main. Si à un moment donné, on peut passer... Ah, c'est beau. Il y a quelque chose qui se passe. Pareil pour la musique. Alors je dirais aux retraitants, laissez-vous faire, laissez-vous imprégner. Même à l'office, prenez pas les papiers. Remplissez-vous les oreilles et les yeux de ce qui se passe. Quand vous écoutez un concert à la télévision, vous ne cherchez pas la partition. Quand vous voyez un film à la télévision, vous ne prenez pas le livre en main, vous vous laissez faire. Ici, bon, vous êtes dans quelque chose qui va être à la fois silencieux, sonore et visuel. Laissez-vous remplir. Et après, bon, écrivez ce que vous avez senti.
Oui, c'est de l'ordre de la réceptivité, finalement, de l'accueil. Quand on, pendant le temps de l'Avent, on médite surtout la dernière semaine, cette quatrième semaine, tous les récits dans l'évangile de Luc, donc les récits de l'enfance, etc. Et quand on contemple la présence de Marie, la manière dont Marie se situe, donc elle est pleinement femme dans son monde, dans le monde, l'univers qui était le sien, sa vie quotidienne, et en même temps, elle est tout entière accueil. Le jour où l'ange vient lui annoncer, Marie, pleine de grâce, donc tu es bénie entre toutes les femmes, voilà, tu vas devenir la mère du Sauveur. Marie est toute réceptive par rapport à ça. Elle aurait très bien pu dire non, non, non. Et pourtant, Marie est accueil. Et c'est là que je rejoins ce qu'André-Marie dit, être ouvert à ce que la vie nous donne, nous offre.
Mais là, c'est si on vient prendre un temps de retraite, en fait, vous incitez à une forme de passivité, mais dans sa vie quotidienne, il suffit de prendre des temps de silence pour petit à petit découvrir cette présence dans le silence.
Ça suffit.
Ça peut suffire.
Ça suffit. Faites des assises.
C'est-à-dire ?
Il y a le canapé. Prenez le temps de vous asseoir, sans télévision, sans musique, ni rien. Peut-être qu'il faut céder par un texte. Si vous avez pris en église ou si vous venez de brancher sur Radio Présence, vous avez écouté quelque chose, laissez rentrer. Commencez par 5 minutes tous les matins, tous les soirs. Le matin, je me reçois. Je suis vivant. C'est un miracle, j'aurais pu mourir. Le soir, je m'abandonne. Demain, on verra. C'est déjà. Et en même temps, derrière, il y a cette peur parce qu'on sait très bien qu'on est bancal. On est tous quelque part des blessés. C'est ça le Sauveur. Si tu reconnais que ton cœur est malade, alors tu es sauvé. Donc il faut quand même oser descendre en soi pour se rendre compte que on est le fruit d'une histoire. On n'est pas les conséquences malheureuses, plus ou moins, des accidents, des soucis, d'une petite enfance. Ceci. On est le fruit d'une histoire. C'est un fruit. Il y a quelquefois des fruits amers, difficiles à décortiquer. La noix, par exemple, il y a 3 couches. Il y a d'abord le brou de noix avec le vert, ensuite il y a le bois, il faut le casser. Et si on est un peu fin, il faut éplucher le fruit. Après, il est encore plus délicieux.
Voilà, donc laissez-vous éplucher par le silence, si j'ai bien compris, en tout cas, prendre du temps en silence petit à petit pour descendre dans son cœur. On va faire une deuxième pause musicale et puis peut-être on va encore creuser ce terme de la solitude et du silence qui sera peut-être la réalité de vie d'un certain nombre de vous, auditeurs, à l'occasion de Noël. Comment, à l'intérieur de cette solitude, peut-être trouver une lumière ou faire d'une solitude subie une chance pour y rencontrer le Christ. Ce matin, donc, cette émission Vivante Église en direct de l'abbaye Sainte-Marie du Désert, donc abbaye cistercienne, comment on dit exactement ? C'est de la stricte observance. Quel est le nom usuel ?
Le nom officiel, c'est Ordre cistercien de la stricte observance.
Ordre cistercien de la stricte
observance. Communément appelé trappiste.
Voilà, trappiste. Donc, abbaye communément appelée trappiste, à quelques kilomètres de Toulouse, donc avec le père Pierre-André et le père André-Marie, qui nous font l'amitié donc d'être avec nous ce matin. Enfin, c'est plutôt moi qui est allé chez eux, puisque je suis donc dans l'enceinte du monastère. Alors, on a présenté brièvement ce lieu, ce que c'était que la tradition monastique était la vôtre, comment vous essayez de vivre ou de cultiver cette amitié avec le Christ, quels conseils vous pourriez donner à tout à chacun pour essayer de découvrir au cœur de notre vie, à chacun, la présence du Christ. Je voulais creuser avec vous un petit peu plus le thème de la solitude et du silence. Vous en avez déjà beaucoup parlé. Un certain nombre d'auditeurs peut-être seront seuls à l'occasion de Noël et on pense particulièrement à eux. Et je voudrais dans cette dernière partie voir, comme je le disais avant cette deuxième pause musicale, voir comment quelque chose de subi peut devenir une richesse. Je le disais en introduction, le silence est pour vous un compagnon. Alors est-ce que c'est une formule un peu exagérée ou vous passez quoi la plupart de votre journée, vous, en silence, hormis les temps d'office évidemment? Père Pierre-André.
On cultive le silence, mais on n'est pas dans un mutisme complet. Donc nous sommes des hommes, chrétiens, moines. Donc l'homme est par définition un être social. Donc on ne peut pas rester comme ça à s'ignorer, à ne pas se parler. Donc il y a une part effectivement de silence qui est extrêmement importante. Donc au service, comme je le disais tout à l'heure, donc c'est un écrin, c'est pas un but en soi, c'est cet espace dans lequel on offre comme une caisse de résonance à la parole de Dieu, mais aussi la parole de Dieu méditée, mais aussi caisse de résonance à tout ce que nous vivons au quotidien, dans la vie fraternelle, dans les relations les uns avec les autres. Donc c'est pas, le silence n'est pas mutisme. Hein, c'est silence au service de la, je vais pas dire culture, enfin cultiver cette vie intérieure qui est en nous.
Et la solitude, alors, parce que quand on vit en communauté, on peut imaginer que des moines vivent seuls, mais en fait, vous vivez peut-être tous au fond en solitude, en fait, ici. Vous
êtes
les uns avec les autres.
Tout homme et toute femme porte en elle une solitude radicale. Nous sommes, et je pense que c'est lié au fait que nous avons été créés par Dieu et que nous ne sommes pas des clones les uns des autres. Nous sommes créés uniques. Et dans la mesure où il y a une unicité de notre personne, nous sommes uniques, vous, Emmanuel, c'est pas André-Marie, c'est pas tous les gens que vous rencontrez, vous êtes uniques. Et du fait même que nous sommes uniques, nous portons en nous une solitude. Bon. Pour le dire en termes un peu philosophiques, c'est une solitude ontologique, constitutive de notre être. Par contre, et justement, quand on lit le récit de la création dans le livre de la Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, dès le projet créateur de Dieu, donc il y a ce projet du vivre ensemble. Alors, nous vivons effectivement dans une vie communautaire, avec cet accent de solitude, mais pour pouvoir accéder à ce qui fait notre unité ou notre unicité. Nous sommes tous un peu, c'est la petite Thérèse qui disait ça, dans un champ, il y a plein de fleurs, il y a des tulipes, il y a des iris, il y a
des lys,
s'intéresse de l'enfant Jésus. Et puis il y a des pâquerettes ou des pissenlits, enfin n'importe quelle fleur, une rose. Et la petite Thérèse disait, mais moi je ne suis peut-être qu'une petite pâquerette, mais elle est nécessaire pour la beauté du champ, enfin du pré. Eh bien je dirais, c'est un peu ça, cette solitude. Découvrir finalement la richesse que nous sommes à nous-mêmes, pas pour nous-mêmes, mais pour les autres.
Père André-Marie, sur cette même question, je ne sais pas, le compagnonnage du silence ou cette solitude
radicale.
Alors
dans le compagnonnage... Dans le compagnonnage, il y a aussi une souffrance que je rencontre dans les gens. Je ne suis pas comme les autres ne sont pas comme moi. Y compris dans le couple, dans la famille. Les gens que je rencontre viennent souvent d'un monde où ils ont largué les choses, ils n'ont quelquefois pas été baptisés, ou bien ils ont été catéchisés, mais à partir de l'adolescence, ils ont largué. Ils reviennent, comme on dit aujourd'hui, avec des questions comme... C'est quoi vivre? Je vis plus. Ou c'est qui moi? Et effectivement, quand une personne commence un chemin comme ça d'intériorité, il peut y avoir très vite un décalage avec le conjoint, par exemple. Alors il y a une troisième question, c'est quoi aimer ? C'est posséder l'autre ou bien c'est accueillir l'autre dans sa différence ? Je ne suis pas comme les autres et les autres ne sont pas comme moi. Et finalement, puisqu'on est dans une abbaye, c'est qui Dieu ? Mais là, il y aurait toute une émission à faire. Mais la solitude est un bienfait. Ce qui est une difficulté, c'est l'isolement. Alors, en particulier par rapport aux personnes âgées qui me disent « Ah, il y a ma radioprésence !» Bon, mais ça veut dire que dans cette solitude, il faut d'abord, il est possible d'abord de rendre grâce pour le chemin parcouru, quel que soit l'âge. Ensuite, ne pas gémir sur le présent, ces petites misères, bon, et cultiver l'altérité, c'est-à-dire rencontrer les autres, dire à une mamie, mais sortez tous les jours, allez chercher votre baguette, et puis voyez le sourire de la boulangère. Il faut cultiver l'altérité, la rencontre, sous toutes ses formes, mais pas d'une façon gourmande. Même pour Noël, bon, si on vous invite pas, on vous invite pas, mais ça vous empêche pas de recevoir des coups de téléphone et d'être heureuse d'entendre un bon Noël, au lieu de pleurer en disant, il m'a même pas invité, ben, ils sont avec leur réveillon et leurs copains, vous êtes allés à la messe de minuit. Oui. Cultiver cette chose-là comme un bienfait. Mais dans la communauté, des gens qui sont autour de nous, naturellement, parce que ben, on n'est pas tout seul.
Donc, aux personnes qui, à l'occasion de ce Noël, on va dire, subiraient une certaine solitude, vous leur diriez donc deux choses. À la fois, cette solitude, d'une certaine manière, ils font face à cette solitude alors que d'autres n'y font jamais face, c'est ça ? Donc, ça peut être une chance, si j'ai bien compris. Et en même temps, peut-être ne pas se résigner à cette solitude et essayer de faire en sorte, comment dire, d'être avec d'autres. Qu'est-ce que vous diriez pour compléter
par la question de... La solitude est une richesse. Disons que le vivre seul, non, c'est pas le vivre seul. La conscience de notre, c'est ce que je disais à l'instant, la conscience de ce que nous avons été créés unique, que sans moi, il manquerait une fleur dans le bouquet. Donc prendre conscience, alors c'est là que le travail de la mémoire peut, hein, donc toute la tradition liturgique, c'est un acte de mémoire, on se souvient, on fait mémoire de la naissance du Christ. Donc faire mémoire de, comme disait André-Marie, de notre histoire, de mon histoire. Bon, il y a peut-être eu des couacs, il y a peut-être eu des échecs, mais je vis. Et le simple fait de vivre est déjà une richesse. Le non-exister, c'est une pauvreté. Le vivre, le fait de vivre, d'être vivant, est une richesse. D'abord pour moi, je suis vivant, mais alors une richesse aussi pour ceux avec qui je peux entrer en contact. Donc découvrir justement cette richesse que nous sommes à nous-mêmes. Mais c'est une richesse à nouveau, comme je le disais, et André-Marie le soulignait aussi, hein, ce n'est pas une richesse qu'on garde pour soi, c'est une richesse qui doit être offerte, qui est invitée à être donnée. Hein, on disait tout à l'heure aussi, la vie nous l'avons reçue, mais c'est pour la transmettre. Et donc cultiver cette solitude comme étant une chance. Mais accepter d'entrer alors justement dans cette profondeur, hein, qu'André-Marie évoquait, cette intériorité.
Alors Noël, c'est aussi donc évidemment la naissance du Christ. Je ne sais pas, autour de cette naissance du Christ, justement, tout à chacun, même s'il est seul, peut faire une crèche chez soi, ou en allant à la messe, ou voir dans une église une crèche, et contempler cet enfant Jésus. On y contemple, comment dire, une figurine, mais on peut peut-être aussi y trouver davantage, pour faire écho à ce que vous nous avez dit dans la deuxième partie. Qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs pour que ce Jésus prenne du relief, ou qu'il devienne peut-être un peu plus vivant à la faveur de ce Noël de cette année, Père André-Marie ?
Son nom, Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Dans toutes les périodes précédentes de l'histoire humaine, on a eu un Dieu en face de nous, terrible, il nous regarde, il nous juge, ou au-dessus de nous, encore plus écrasant. Emmanuel, c'est Dieu avec nous, dans nos émotions, dans nos désirs, dans nos manques, dans notre amour. Il est avec nous. Il n'est pas ailleurs. Et quand on dit... Il est pur amour. Il est pur je t'aime. Il est dans cette pièce. Il est dans mon cœur. Il n'est pas à l'église. L'église, c'est le lieu de rassemblement des croyants qui, devenus disciples de Jésus, sont en marche vers le Père. Mais les mots pour le dire, c'est... Bon, il y a la théologie, elle est nécessaire, mais il y a surtout l'expérience nécessaire de ce « je t'aime ». Tu as du prix à mes yeux, tu es unique et je t'aime. Dieu a tellement aimé le monde qu'il s'est fait l'un de nous. C'est ça, il est né là. Et donc, pour une personne seule, bon, écouter la messe télévisée à la nuit ou allumer une bougie, bon, c'est important. C'est des signes. Bon, ils ont souvent une icône, ils ont soit leur bureau avec les textes, mais essayer de se recevoir comme un cadeau, c'est ce que tu dis. Mais un cadeau de quelqu'un qui donne. Dieu n'est pas quelqu'un qui prend, qui réclame, c'est quelqu'un qui donne.
Père Pierre-André, sur cette naissance de Jésus, vous me disiez en préparant cette émission que dans la tradition, il y a plusieurs événements.
Oui, effectivement, dans la tradition spirituelle de Cîteaux, donc qui est la nôtre, donc surtout Saint Bernard et puis ses disciples aussi, donc ont beaucoup insisté sur ce qu'ils ont appelé le triple avènement ou la triple venue, la triple adventus, puisque le mot avant vient du latin adventus, cette triple advenue. Il y a ce que nous allons commémorer, le fait historique de la naissance de Jésus, que les chrétiens confessent comme le Fils de Dieu Sauveur. Et puis, à nouveau, notre foi chrétienne professe et confesse que le Christ reviendra un jour à la fin du monde pour juger les vivants et les morts, comme dit le credo. Mais entre les deux, il y a ce que nos auteurs appellent cette avant intermédiaire. Et là, on rejoint la question qu'on a évoquée dans les passages précédents de l'émission, c'est la dimension d'intériorité. C'est-à-dire que la naissance du Christ, donc, elle a eu lieu un moment dans l'histoire bien déterminé, et Jésus est un vrai homme. Nous le confessons comme vrai Dieu, sauveur et juge du monde, mais nous le confessons aussi comme étant présent au cœur de notre vie personnelle à chacun de nous. Et certains auteurs cisterciens, à nouveau, vont insister sur le fait que, de la même manière que Marie a donné naissance au Christ, lui a donné chair, nous avons, nous aussi, à le rendre présent dans notre vie. Et ce rendre présent le Christ dans notre vie, c'est simplement essayer de conformer notre vie à ce que le Christ était, à être comme des miroirs, des icônes de la présence vivante du Christ ressuscité qui donne la vie, mais il la donne aussi par nous. Il a eu besoin de nous et il ne cesse d'avoir besoin de nous pour le rendre présent.
Peut-être pour finir cette émission, je voulais aussi, ma dernière question est la suivante. J'ai cru comprendre aussi que la vie monastique, c'était aussi une manière de rejoindre tout à chacun, toutes les réalités de vie, mystérieusement, même si vous êtes ici dans ce monastère, on disait à quelques dizaines de kilomètres de Toulouse, y compris parfois les situations les plus douloureuses. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette peut-être communion d'esprit ou de cœur que vous aurez avec toutes ces personnes qui seront à la peine le soir de Noël ou qui sont à la peine en temps normal? Je ne sais pas, la parole est à qui veut.
Je dirais, dans notre célébration liturgique, donc dans toutes les célébrations liturgiques, donc on a sept offices, on le disait tout à l'heure, tout office se termine par des prières dites d'intercession. Donc l'intercession, l'intercesseur, c'est celui qui se met entre deux, inter cadere en latin, donc c'est être entre deux. Eh bien, le priant, quel qu'il soit en communauté, qu'il prie seul, il est un intercesseur. Il se met entre les besoins et les nécessités du monde. Et frère André-Marie est bien placé pour le savoir, lui qui accueille et accompagne beaucoup de personnes de l'extérieur pour accueillir, recevoir les peines et les souffrances du monde, et en même temps les porter justement devant celui qui est le sauveur du monde. Le priant est par définition, mais avec le Christ, et dans le Christ, intercesseur. Et donc, c'est une réalité de foi, donc on ne le touche pas, on ne le mesure pas, on ne le sent pas, mais nous participons d'une certaine manière à la prière que le Christ a faite, c'est-à-dire l'offrande de lui-même pour le salut du monde. Mais peut-être André-Marie voudrait ajouter l'une ou l'autre chose.
C'est un des motifs pour lesquels je suis venu ici sur un tard. Quand j'ai rencontré mon évêque, qui à cette époque-là était le père Vilney, j'ai fait cette proposition en disant, voilà, ouais, peut-être que j'ai à l'âge que j'ai, dans la famille, on a tous été presque centenaires, 98, 100, etc. Si à 70 ans, j'ai 30 ans de vie devant moi, je ne vais pas faire n'importe quoi. C'est...
Parce que vous étiez prêtre diocésain, c'est prêtre diocésain.
Et donc, même la maison des retraites et des prêtres diocésains retraités, c'est certainement bien. J'ai été professeur de lettres. Bon, une ville comme Lille, elle aurait pu me fournir beaucoup d'éléments de culture, de loisirs, etc. Mais j'ai dit non, je veux passer le reste de ma vie à vérifier ce que j'ai été comme pasteur. C'est non pas que j'en ai douté, mais à verum facere, faire la vérité sur ce que j'ai enseigné. Et à la louange et à l'intercession. L'évêque m'a répondu, c'est une des missions principales de l'Église, et c'est la tâche des évêques d'y pourvoir. Je t'y envoie. N'attends pas 70 ans, va maintenant. C'est comme ça que je suis rentré à 63 ans. Au bénéfice du diocèse. Et donc et du reste du monde. C'est une des missions de l'Église d'assurer la permanence de l'adoration, c'est-à-dire, oui, et de l'intercession, la louange et l'intercession. Mais dans la combinaison constante des deux, tous nos offices commencent par « Seigneur, viens à notre secours ». C'est-à-dire « Kyrie ». « Seigneur, prends pitié », ce mot a fait horreur à beaucoup de gens. « Seigneur, à notre secours ». Mais immédiatement, « Gloire à Dieu ». Jamais de « Gloria » sans « le Kyrie », mais jamais de Kyrie sans le Gloria. C'est-à-dire porter la misère du monde, mais pour rendre gloire. Et bon, on va chanter Gloria toute la nuit de Noël. Gloria in excelsis Deo. C'est la mission de l'Église.
Et j'ajouterais peut-être, si on a encore le temps, donc justement entre les deux pôles que frère André-Marie vient de souligner, entre le Seigneur vient à notre secours, Dieu vient à mon aide, et puis le gloire à Dieu, il y a la possibilité de mettre un petit espace de silence. Et dans cet espace de silence, c'est ce que j'ai commenté il y a quelque temps aux frères, en communauté, cet espace de silence, c'est le lieu où je fais mémoire. La mémoire du lieu où j'étais dans, on va dire comme ça, dans la misère, pour reprendre l'expression du pape François, le lieu où j'ai fait l'expérience de la misère, mais où j'ai été repêché. Dieu, à la fois, du fait qu'il prend en compte ma misère, il est aussi celui qui me fait miséricorde. Alors c'est justement le dernier document que le pape vient de publier, Misera, la misérable, et misericordia, la miséricorde. L'espace entre le Kyrie, Dieu vient à mon aide, et le gloire à Dieu, c'est qu'effectivement, nous sommes tous capables de découvrir dans notre histoire les lieux, les moments où j'ai été sauvé, j'ai été repêché, un peu comme Saint-Pierre qui marche sur les eaux. Faire finalement de Noël ce moment de mémoire où je prends conscience, oui, le Seigneur est bien le sauveur de nos vies, de ma vie et du monde.
J'allais dire Amen, vous voyez. Donc, merci beaucoup, frère Père Pierre-André et Père André-Marie, donc, d'être venu, de m'avoir accueilli pour cette émission Vivante Église. Merci beaucoup. Et joyeux Noël à tous les auditeurs. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.